Qu'est-ce que le délitement des services publics provoque auprès des travailleurs de la fonction publique? C'est à cette question et bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Jean Boiron-Lajousse, réalisateur du documentaire Hors Service, en salle le 8 octobre. Jean Boiron-Lajousse, bonjour.
Bonjour.
Dans votre documentaire, vous filmez 6 démissionnaires de la fonction publique qui échangent sur leur souffrance au travail. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser particulièrement à ce sujet?
Alors, je pense que la première chose, c'est que je suis beaucoup entouré de gens qui travaillent dans la fonction publique. Je suis fils de prof, mon frère est prof, la personne avec qui je vis est soignante. J'ai eu l'impression ces dernières années, l'intuition même que finalement tous ces gens qui étaient autour de moi et qui étaient très investis dans leur métier, parce qu'ils y croient, je pense. J'ai eu l'intuition que finalement c'était ces gens qui étaient les plus investis, qui avaient le plus de chances de souffrir au travail et potentiellement le plus de chances d'en partir. Tout simplement en étant le témoin des difficultés qu'ils avaient à rester dans le public. Donc ça, on va dire que c'est tout le côté témoin des gens qui travaillent dans le public. Et puis après, il y a le deuxième versant qu'on a tous. En gros, c'est soit on travaille dans le public, soit on a des proches qui travaillent dans le public. Et puis par ailleurs, on est tous usagers. Et moi, c'est vrai que la vie a fait que je me suis retrouvé plusieurs fois à l'hôpital et dans des séjours assez longs. Et c'est vrai qu'en faisant des séjours un peu longs à l'hôpital, on se rend compte de choses qu'on peut pas voir en ayant une santé tout à fait normale et en allant juste de temps en temps chez le médecin. C'est-à-dire que là, on sort de la petite frustration, de la consultation trop courte, etc. Et j'ai pris conscience déjà que l'hôpital public m'avait à plusieurs reprises sauvé la vie, que la machine était incroyable, qu'elle fonctionnait encore. Mais quand on reste 2 mois à l'hôpital dans un service, on a aussi le temps de voir à quel prix ça fonctionne. C'est-à-dire que déjà, il y a des petits ratés qui sont très bien rattrapés au niveau des patients. Mais on voit, j'ai pu voir à quel point ça tirait sur la corde au niveau des soignants, notamment évidemment des infirmières et des infirmiers et des aides-soignants et aides-soignantes. J'ai pu voir des absurdités aussi, étant le plus jeune du service avec une pathologie un peu exceptionnelle. Du coup, j'ai vécu des choses lunaires comme la cadre qui venait dans ma chambre avec un représentant commercial d'une machine d'échange plasmatique et qui avait donc j'ai eu juste à côté de moi, j'entendais le représentant qui essayait de vendre pour une machine offerte la deuxième coûte 1 €. Enfin, toutes ces choses là qui m'ont paru complètement contradictoires et complètement lunaires. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui m'ont fait donner l'intuition qu'il y avait un paradoxe entre l'impression que les services publics étaient fondamentaux, qui tenaient encore, mais un peu au prix des gens qui y travaillaient. Et puis ensuite, il y a eu toute la période de la pandémie, où là, ça n'a fait que confirmer ce rapport assez paradoxal des gens du pays avec les services publics, c'est-à-dire toute cette période où on applaudissait les soignants aux fenêtres, et où simultanément, on a eu notamment 2 élections qui ont largement contribué à une détérioration flagrante et rapide des services publics. Et en fait, voilà, donc j'ai commencé à la période après la pandémie à m'intéresser à cette figure du fonctionnaire. Et puis après, j'ai vu dans la figure du démissionnaire un peu l'incarnation de ce paradoxe. C'est-à-dire, plus on donne de sens à notre métier dans le public, c'est-à-dire à ces missions d'intérêt général, plus on a de chances de souffrir parce qu'on n'arrive pas à le faire toujours correctement. Et j'ai vu dans la figure des missionnaires, cette image de la désillusion, qui est quelque chose qui me parle beaucoup dans la vie et au cinéma. Et voilà, à partir de là, j'ai eu envie de faire un film.
Et comment justement vous avez pu choisir ces figures du de la démission, comment s'est fait votre choix pour trouver ces personnes que vous avez décrites comme des investis et comme témoins, on va dire, d'une sorte de délabrement du service public. Comment vous avez fait votre choix et pourquoi elle particulièrement?
Alors, déjà, comme je disais, comme je suis pas... Moi, je fais des films, donc je suis pas scientifique, je suis pas journaliste, mais j'avais quand même envie de confirmer cette intuition que j'avais, que les gens partaient pas par désintérêt. Donc évidemment, il y a eu toute une phase où j'ai lu, puis je me suis renseigné, puis après j'ai fait une sorte d'appel à témoignages de beaucoup de secteurs différents, puisque l'idée était de rassembler des gens de plusieurs secteurs du public, et notamment via les syndicats, mais pas que, enfin via des proches, via différentes structures, j'ai envoyé énormément de mails d'appels à témoignages, et dans tout le pays. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs critères. Le premier critère, c'était déjà des gens qui acceptaient de parler. Donc, j'ai pas toujours eu des réponses. Et après, au final, j'ai dû avoir entre 30 et 40, je dirais, rencontres souvent par téléphone avec des entretiens souvent très longs, des discussions d'une à deux heures, voilà, pour rencontrer ces gens. Et ensuite, il y avait puisque c'est un film et que moi la figure qui m'intéressait c'était justement celle des gens qui avaient vraiment vécu une désillusion, dans le sens où il y a pas de déception sans un idéal au préalable, c'est-à-dire que je voulais des gens qui quelque part y avaient cru à un moment donné, en tout cas croire à la possibilité de remplir ces missions d'intérêt général, et donc bon, même si franchement quasiment tous les gens que j'ai eu au téléphone, c'était ce profil, mais j'aimais bien, j'ai choisi des gens qui vraiment y avaient cru, qui vraiment s'y étaient investis. Et ensuite, il y avait évidemment le gros critère qui était, qui accepte de... Non, c'était pas uniquement parler devant une caméra, parce que je pense qu'on en parlera plus tard, mais l'aventure que je proposais était quand même une vraie aventure de film. Donc il y avait aussi voilà le fait d'accepter de parler, d'apparaître et puis de consacrer comme ça tout un temps à un tournage un peu hors du commun.
Et vous parlez de désillusion comme point commun aux personnes que vous avez filmées, mais ce qui m'a marqué moi c'est qu'il y avait quand même plusieurs points communs, alors que ces personnes ont certes travaillé dans du service public mais ayant exercé des métiers très différents. Je pense notamment au sentiment d'isolement et de solitude qui me semblait commun à chaque personne. Est-ce que vous avez remarqué d'autres points communs au fur et à mesure que vous avez filmé et interviewé ces personnes?
Alors déjà, je réponds juste sur la question de l'isolement, c'est que c'était le principe même du film qui était aussi, je pense, un peu pour politiser cette idée des départs en fait et de sorte d'abandon des gens qui travaillent, c'était de dire ça fait partie du problème, c'est que on vous fait croire que vous êtes seul et que vous êtes vous-même le problème. Et l'idée même du film était de rassembler des gens qui avaient ressenti ça effectivement tout en venant de branches différentes. Donc tout venait pas d'une seule et unique administration. Voilà. Donc effectivement ils ont tous ressenti ça. Après ce que j'essayais de faire dans le film, c'était montrer effectivement qu'il y a des similitudes, tout en montrant que chaque métier est extrêmement différent. Mais parmi ce qui se recoupe, c'était aussi le problème du temps. Alors souvent, on a tendance à cantonner le burn-out à une simple surcharge de travail, mais... au fur et à mesure, je me suis rendu compte, et puis ça a été confirmé avec les réactions aussi que j'ai eues de gens du public et puis même de sociologues du travail notamment. C'est que ce qu'ils ont en commun souvent, pour la plupart, c'est une impression de confiscation de leur usage du temps. C'est-à-dire que ce qui fait souffrir, c'est pas toujours d'avoir trop de travail, c'est de pas pouvoir le faire comme on le veut nous. La plupart, ils ont eu ce qu'on peut appeler l'impression d'une qualité empêchée, c'est-à-dire, Pour beaucoup, c'était à cause de la surcharge du travail, mais pas que. C'est-à-dire, il y a toutes les tâches interrompues. Il y a le contrôle des services sur nos gestes. Et moi, ce qui me plaisait, c'était de me rendre compte que c'était quand même quelque chose qui les avait tous traversés. Alors, on peut appeler ça la politique du chiffre, mais finalement, c'est très insidieux. Comment ça va, quelque part, un peu les infantiliser et puis petit à petit leur enlever et la qualité de leur travail, mais aussi leur sens et puis un peu leur souveraineté. Quand on prend les deux exemples qui, pour moi, ont quelque chose de très similaire dans justement à quel point on leur a confisqué leur usage du temps, c'est la tarification à l'acte d'un côté et puis l'inspiration du lean management, donc je ne sais pas si je dois expliquer les grandes lignes du lean management, mais en gros, c'est aussi une division des tâches pour enlever tout ce qu'il y aurait de superflu, en gros. Et finalement, il y a quelque chose de très similaire, c'est-à-dire entre la médecin et le postier, on ne pourrait pas immédiatement faire le lien, et finalement, on en arrive à voir que ça crée cette division, cette recherche d'un temps qui ne serait pas celui du temps avec l'usager, mais celui du plus... basé sur l'acte en enlevant tout ce qu'il y aurait a priori de superflu, en fait, ça fait souffrir et les travailleurs et les usagers, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est aussi quelque chose c'est quelque chose qu'ils ont très fort en commun.
Et ces points communs que vous avez évoqués, donc la qualité empêchée, la perte de sens, de souveraineté, une souffrance qui s'installe, comment vous y êtes pris pour réussir à capter tout cela?
Alors déjà, je pense que je suis un peu, même, j'ai du mal à filmer des gens si avant j'ai pas une sorte d'estime, un peu comme un crush quelque part, qui serait pas amoureux mais qui serait voilà quand les gens quand ils me parlent, il y a quelque chose qui me touche et du coup l'envie de le retranscrire. Donc la première des choses, ça a été quand même de pas mal discuter avec ces gens et puis d'avoir une très forte envie de les rencontrer et ensuite ça a été tout le dispositif du film que j'ai mis en place. J'avais envie... Je crois que je ne suis pas très bon pour faire un film qui serait un film d'observation où on oublie la caméra, etc. J'avais vraiment, en plus, au-delà du fait que je pense que ce n'est pas ma spécialité, mais envie de créer une aventure qui serait totale, c'est-à-dire qui serait une aventure de film, déjà, où on trouverait un décor, en l'occurrence un hôpital abandonné, et puis leur proposer de jouer leur propre rôle et puis de se rencontrer devant la caméra et d'échanger entre eux. C'est-à-dire que dans le film, j'ai vraiment tenu à discuter avant avec eux, mais pendant le film, à aucun moment ils se retournent devant la caméra pour me parler à moi. Et l'idée, c'était de créer une dynamique de finalement comme une petite bande de démissionnaires qui se raconteraient et ils peuvent se raconter d'autant plus qu'ils ont vécu quand même à peu près la même chose. Et donc ce que j'ai mis en place, c'était un peu un pari. On a quand même fait des essais un an avant pour voir si c'était purement théorique ou si finalement ces gens avaient vraiment envie de se parler les uns aux autres. Et après quelques résistances de la toute première fois qu'ils se sont rencontrés ou en dehors de la caméra, ils ont dit « Ah, mais vous avez envie d'être là, moi je me rends compte que j'ai peu envie d'être là, c'est derrière moi, etc. » Et à partir du moment où une personne a commencé à parler du vif du sujet, en fait, ça a été des discussions qui se sont jamais arrêtées. Et donc finalement, ce que j'ai mis en place, c'est une idée de film quelque part, des idées de scène, et puis surtout tout un contexte pour qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent et qu'on ait envie de créer un objet commun.
En introduction, vous évoquez le fait que vous avez tourné ce film ce documentaire sur une intuition, sur l'écoute, on va dire, que de personnes qui avaient pu travailler dans le service public. Après avoir tourné ce documentaire, après, j'imagine, avoir vu et revu votre travail et discuté longuement avec les démissionnaires, est-ce que ça vous a créé des convictions sur le sujet du burn-out, de la souffrance au travail, spécifiquement dans le service public?
Plus qu'une conviction, je crois que la constante, c'est quand même un sentiment de colère qui est très lié à, aussi à un sentiment de gâchis. C'est-à-dire la contradiction qui au début était déjà quelque chose qui titillait une forme de colère, c'est-à-dire en fait comment c'est possible alors que finalement c'est dans nos tâches, quand on est fonctionnaire, quelque part on fonctionne pour des valeurs qui sur papier sont très louables. Et d'ailleurs, beaucoup le disent, plus ou moins dans le film, mais en tout cas, je sais que j'en ai parlé avec eux, que c'est d'autant plus incompréhensible que, quelque part, l'État capitalise là-dessus. C'est-à-dire, déjà, en payant des formations qui sont quand même, pour la plupart, vraiment d'une grande qualité, disait notamment Floriane, qui est dans le film, la juge, disait, mais quelque part, l'État lui a payé des études vraiment d'une grande qualité, mais le gâchis, c'est que derrière, alors qu'elle avait appris à motiver des jugements de plusieurs pages, la réalité concrète ne lui permet pas de faire mieux que quelques lignes. Et en fait, ça, pour moi, ça, c'est ce que la médecin dit aussi à un moment donné, ça abîme les vocations. Moi, c'est ça qui me met en colère, c'est cette sensation de gâchis où quelque part, l'institution n'est ni à la hauteur des usagers, ni à la hauteur des travailleurs et des travailleuses. Et la conviction que les gens qui travaillent près des usagers, enfin de manière générale, les gens qui travaillent sont quand même souvent les mieux à même de savoir comment organiser justement leur travail. Et ça, oui, c'est une conviction. Enfin, c'est une conviction énorme, quoi. Et aussi, je dirais que comment dire. J'ai eu une confirmation qui avait quand même pas de volonté politique pour que ça change. C'est-à-dire que il y a une sociologue qui s'appelle Nadège Vézina, quelqu'un qui a écrit beaucoup sur le service public et qui décrit un cercle vicieux dans lequel on est, mais qui explique bien que même si tout ça a une sorte de logique, en fait rien n'est chaque étape peut être évitable par une grande volonté politique que ça change. Et ça aussi, ça a été une conviction, quoi, que je me rends compte que il n'y a pas de volonté pour l'instant que ça change fondamentalement.
En regardant votre documentaire, j'ai fait souvent le rapprochement avec un ouvrage de la sociologue Corinne Lebars qui s'appelle « Réussir sans burn-out », dans lequel elle a réuni 7 personnes qui étaient victimes d'un burn-out professionnel, pas forcément dans le public d'ailleurs, public et privé. Et en les réunissant, en les faisant parler et en écrivant leur récit, elle s'est rendue compte que ce travail avait été devenu une sorte de ressource pour chacune des personnes qui étaient présentes, qui intervenaient et partageaient son récit. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez remarquez auprès des 6 démissionnaires que vous avez filmés que le fait de discuter ensemble, ça devenait quelque chose, une force pour ces personnes et une sorte de ressource pour elles?
Oui. Alors après, moi, je suis souvent assez, relatif ou un peu réaliste ou humble sur ce que le cinéma peut créer ou même sur ce que l'art peut créer. Je pense que le cinéma, d'autant plus documentaire, ce qu'on peut faire, c'est créer des moments. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai autant eu envie que ça se passe au moment du tournage. C'est-à-dire que oui, je pense que ça a été riche pour chacun, chacune de partager. De partager ces étapes, en fait, parce que c'est quand même quelque chose qui est en mouvement, de partager ces étapes, de se rendre compte qu'il y avait des points communs, de se confirmer, parce que je pense qu'ils le savaient déjà qu'ils et elles n'étaient pas seuls, de prendre conscience aussi, quelque part, un peu de ce que je disais avant, c'est-à-dire que, alors qu'ils ont tous cru, à un moment donné, que c'était eux le problème, d'entendre de la bouche des autres qui ont vécu la même chose, qu'en fait, il y a quand même quelque chose de plus large, et que avant que ça soit eux qui aient dysfonctionné, c'était quand même l'institution elle-même qui dysfonctionnait. Donc tout ça, je pense que sur le moment a fait du bien, en plus du côté colonie de vacances d'un tournage, même si c'était pas le plus beau des Club Med, hein, étant tournant quand même toute la journée dans un hôpital désaffecté, le décor, même s'il était très chargé symboliquement, etc., était plutôt lourd, mais c'est vrai que ça a été, enfin, en tout cas pour moi, humainement, ça a été exceptionnel de réunir ces gens, de voir que quelque part il y avait une sauce qui prenait alors qu'ils étaient tous très différents. Donc oui, tout ça, je pense, a fait du bien aux gens eux-mêmes et quelque part même à l'équipe, parce que je pense qu'il n'y a pas que les travailleurs et les travailleuses du public qui sont en perte de sens et d'espoir sur ces questions. Mais après, voilà, je sais que même si l'époque a très envie de nous faire croire que quelque part, hein, le pansement du soin, sans parler de tout ce qui est coaching, développement personnel, etc., suffirait. Moi, là, j'ai vraiment très conscience que qu'évidemment, ça fait du bien de prendre soin les uns des autres et que c'est même tout à fait fondamental. Après, voilà, pour moi, les blessures, elles ont quand même été faites. Et puis, je pense pas la simple expérience du film est totalement réparé le mal que le travail leur a fait, quoi.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes toujours en contact avec ces personnes? Est-ce que vous savez ce qu'elles font désormais?
Oui, alors Michael, qui a été facteur pendant des années, en démissionnant, est finalement resté dans une institution publique, mais travaille aux impôts. Avec une certaine paix, comme il dit dans le film, mais tout en étant moins, comment dire, je pense moins convaincu et épanoui par son travail qu'avant. Floriane, qui était juge, a fait plusieurs choses. Elle a fait une école de journalisme, elle a fait des pauses et elle travaille de temps en temps comme juriste. Nabil, qui était policier, lui travaille dans le cinéma. Alors il a fait pas mal de rôles de cinéma, tout en étant un peu aussi parfois déçu d'avoir souvent des propositions, en gros, soit de flics, soit de bandits, quoi. Mais du coup, il s'est aussi beaucoup dirigé vers la production, etc. Il y a les deux profs d'anglais qui sont toutes les deux à Montauban. Alors Blandine a fait une longue formation de médecine chinoise. Elle commence à pratiquer. Elle a aussi eu une petite fille, donc ça prend du temps. Et Rachel a monté une maison pour parler l'anglais, donc pour tous les âges, pour apprendre à parler la langue en vivant, quoi, et en faisant des actions, du jeu ou des actions quotidiennes. Et enfin, Margot, la anesthésiste réanimatrice, médecin, après être partie, fait un grand comeback puisqu'elle s'est réinscrite, elle refait un internat mais en psychiatrie cette fois.
Ah, ok.
Et ensuite, bon, parce que sur la dimension du soin, encore une fois, évidemment que ça fait du bien, et je pense aussi que même si c'est pas suffisant, mais si on considère que tout ça est un processus, je suis très content que toutes et tous aient accepté d'accompagner le film, c'est-à-dire que le film qui va sortir le 8 octobre sera parfois projeté en présence de une ou plusieurs personnes du film. Et puis ça m'a déjà été dit, notamment par Rachel, une des profs, que même si tout ça est très loin, ça avait été et c'est encore une étape vers une sorte de reconstruction. Et puis aussi pour Michael, l'ancien postier, la dernière fois dans le débat, il s'est clairement exprimé sur le fait que pour lui, ça avait été... À la Poste, je pense qu'ils ont lutté. C'est pas comme d'autres secteurs qui ont eu plus de mal à lutter. Ils ont lutté et ils ont vraiment la sensation d'avoir perdu. De fait, c'est une société anonyme avec une gestion extrêmement différente. Et je pense que lui, il a vraiment très envie. Et d'ailleurs, il y a une sorte de mise à nu dans le film où il craque notamment. Et pour lui, voilà, c'est quelque part, il adhère aussi pour montrer que, pour se dire que cette souffrance n'a pas servi à rien, qu'il faut marquer à un moment donné que, voilà, qu'un instant T, beaucoup de gens qui travaillent dans la poste ont souffert. Donc, voilà, je disais humilité, évidemment, mais quelque part, dans ce cheminement de la reconstruction et puis de l'apaisement, je pense que le film leur sert encore. Et enfin, il y a un personnage qui arrive dans le film, qui arrive à la fin, mais qui est une personne qui est encore en poste, qui est Jean-Marc, un policier qui... Alors depuis, c'est indépendant du film, il a eu la reconnaissance de statut de lanceur d'alerte. Et le film... quelqu'un qui souffre et qui est totalement cadenassé et harcelé au sein de son institution. Donc, en gros, c'est un policier qui s'est fait harceler par l'institution à partir du moment où il a dénoncé des faits de violence sur mineurs, de violence injustifiée sur mineurs. Mais lui, ça a été quand même quelque part un ça a créé quelque chose de rencontrer comme ça sur le tournage 5 personnes qui avaient réussi à franchir le cap de partir, quoi. Donc pas que du soin, mais du mouvement, je dirais. Ça crée du mouvement chez les personnes.
Pour conclure, je souhaiterais proposer une sorte d'ouverture, c'est savoir qu'est-ce que ces situations de souffrance au travail, selon qu'est-ce qu'elles révèlent du fonctionnement de nos services publics. C'est pas une question facile.
Non. J'essaye de pas redire les choses que j'ai déjà dites. C'est pour ça que je mets du temps. Mais je pense qu'avant tout, ça révèle d'un détachement quand même énorme entre les. Je pense entre les politiques, vraiment les politiques. Je parle même pas de toutes les strates qui sont entre. Les travailleurs et les politiques, mais je pense vraiment les politiques sont très 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 déconnectées. Enfin, ça c'est pas un scoop, mais c'est important de le redire quand même. Je pense que ça révèle d'un manque de volonté justement en politique et puis d'un manque d'écoute. On sort aussi quand même d'années de concertation complètement médiocres, de luttes qui n'ont pas du tout été entendues. Et pour moi, ça révèle d'une logique comptable, et on est en plein dedans. Enfin, je pense qu'il y a le mouvement social en cours, etc., finalement raconte ça aussi, c'est-à-dire un moment où la logique comptable ne fonctionne plus du tout, en fait. Ouais, je dirais que c'est un système qui s'essouffle à force d'une recherche de rentabilité qui finit même par appauvrir, en fait, les services eux-mêmes. Et au passage, faire perdre créer une vraie perte de sens chez les gens qui travaillent. Donc, voilà. Pour moi, c'est un constat qui est pas très heureux, mais bon, en écoutant les gens qui y travaillent, déjà, et avec un peu de volonté politique, je pense qu'il y a des choses qui pourraient faire croire un avenir meilleur, ouais.
Jean, merci. Merci pour votre documentaire et merci pour votre témoignage.
Merci à vous.
C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré au documentaire Hors Service, sorti en salle le 8 octobre 2025. Merci à Jean Boiron-Lajousse ainsi qu'à Thomas de l'agence Valeur Absolue. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.